Journal de rhizome. Calendrier organique en 11. Archives papier conservées à la bibliothèque du Courvadis. Comme tous les vrais liens humains, tous les amours, toutes les attaches, les liens organiques doivent être réversibles. C'est ce qui fait le prix d'un lien que d'être volontaire. S'il devient une fatalité, comme le lien du sang, alors le lien n'a plus de sens et n'est plus qu'une entrave. Je n'ai jamais compris pourquoi, dans les civilisations traditionnelles, on exigeait une perpétuité, par exemple, des liens du mariage. En quoi cela peut-il apporter quoi que ce soit de positif que d'obliger les gens par la loi à demeurer liés à ceux qu'ils n'aiment plus, dont ils ont peur parfois? Je plaide pour le droit de chacun de quitter ses parents, ses chefs, son village, s'il estime se trouver compromis ou gravement atteint par les liens qu'il a tissés avec eux. Aucune institution sociale ou familiale ne doit exiger d'aucun individu de renoncer à sa liberté et à son bonheur. Ainsi, il se peut qu'un membre d'un clan prenne sa clé en aversion, et c'est là une situation bien terrible, car la clé possède un réel pouvoir sur son clan, et il n'est rien de pire que d'être sous le joug de quelqu'un qu'on méprise. Toute personne doit pouvoir se libérer de ce lien et en choisir un autre. Si le lien est une obligation, la clé, elle, ne doit pas l'être. Il peut arriver aussi qu'une clé veuille renoncer à ses fonctions ou s'y montre inapte, et alors il est urgent de rompre les liens qu'elle a tissés, quoi qu'il en coûte, car une clé qui serait récalcitrante ou défaillante ferait plus de dégâts qu'il ne s'en peut concevoir. Une cérémonie de rupture doit être envisagée en parallèle avec la cérémonie de l'aiguille. Ce que l'aiguille a cousu, on doit pouvoir, si nécessaire, le découdre. Chapitre 17. Verdict. Année terrestre 3416. Egon Richards n'avait plus reçu de communication de l'organe depuis plus de 5 heures lorsqu'on lui signala le décollage de l'annexe. Il en éprouva un vif soulagement et se précipita vers le quai pour assister à l'arrivée de la mission. Les dernières nouvelles n'étaient pas très engageantes. Le lieutenant Malkin lui faisait part du refus des autochtones et de leurs conditions exorbitantes. Il avait reçu une photographie de cet étrange message manuscrit et l'avait tellement lu et relu qu'il le connaissait par cœur. Le Conseil des Clés a décidé par consensus démocratique de répondre ainsi aux exigences exprimées par le major Michael Strauss au nom du capitaine de la sonde. Concernant Michel, qui appartient désormais au clan de l'orage et qui a pris le nom organique de Forêt, elle a, par la cérémonie de l'aiguille, abandonné sa communauté d'origine et épousé le clan de l'orage. Il nous est impossible de l'exposer volontairement à une souffrance ni de lui faire violence. Il nous est impossible de vous laisser l'emmener contre son gré. Concernant le Courvadis, nous y sommes très attachés et ne comprenons pas la nécessité de le réparer ni de l'arracher du sol. Nous ne souhaitons en effet bénéficier d'aucune avancée technologique que vous nous apporteriez artificiellement. Nous comprenons néanmoins l'intérêt que nous pourrions avoir à coopérer avec l'Union. Nous concédons à l'Union 1/10 du territoire de l'organe aux antipodes de notre foyer de peuplement pour une libre exploitation. Nous proposons également à tous les membres de l'équipage qui le souhaitent de venir rejoindre l'un de nos clans afin de profiter de la beauté et de la fertilité de notre chère planète. En gage de votre bonne volonté, et pour sceller ce pacte de bonne entente, nous demandons au capitaine Egon Richards de bien vouloir nous laisser à demeure le major Michael Strauss et de le délier de ses fonctions et autres engagements auprès de l'Union. Nous espérons recevoir une réponse favorable d'ici à l'aube prochaine. Dans le cas contraire, nous prendrons certaines dispositions à votre encontre. Puis le lieutenant Malkin lui avait indiqué qu'il partait interpeller Michel Touré, et qu'il comptait la ramener séance tenante. La sonde avait pu localiser le véhicule de transport terrestre jusqu'au lieu présumé où se trouvait Touré. Puis, pendant plus de 5 heures, le véhicule avait disparu des radars, ainsi que l'intercom du lieutenant Malkin, dont la fréquence n'affichait plus que « Module d'émission non connecté, veuillez vérifier les paramètres de connexion ». Se souvenant du transmetteur remis au Major Strauss, Richards était allé voir Reda et lui avait demandé d'envoyer un message à Strauss. Il avait vu de ses yeux s'afficher « Transmetteur désactivé, canal inactif ». Revenu au pont, Richards avait patiemment tiré les conclusions des données lacunaires qu'il avait à sa disposition. Le lieutenant Malkin n'avait pas réussi à interpeller Michel Touré. Or, il avait certainement fait usage de la force. Son véhicule et les intercoms avaient été détruits ou suffisamment abîmés pour être mis hors service. Malkin, Fabre, Wilson et Strauss étaient peut-être morts. Et lorsqu'on mettait en perspective cette conclusion avec celle du message des autochtones, on en venait nécessairement à penser que leur dangerosité avait été sous-évaluée. Les habitants de l'organe n'étaient pas ce peuple inoffensif qu'ils semblaient être. Ils possédaient quelque chose, une arme cachée, une technologie quelconque qui leur permettait de faire front. Ne jamais sous-estimer un adversaire, c'était là pourtant une leçon ancestrale de stratégie militaire. Mais les leçons de l'Académie spatiale s'étaient dissoutes dans la routine, car l'Union était une armée sans guerre et sans ennemis. Et Richards avait été pris de court par cette irruption brutale de la guerre dans sa routine quotidienne. La désertion d'un soldat, l'engagement d'un combat, la perte de plusieurs hommes en mission lui faisaient aujourd'hui l'effet d'une douche froide particulièrement cinglante. Richards n'avait pas voulu agir tout de suite et de manière irréfléchie. Il savait que s'il y avait des survivants, ces derniers rejoindraient l'annexe au bout de quelques heures. Et il lui resterait alors une dizaine d'heures avant l'aube. Une dizaine d'heures pour mûrir une décision stratégique. Sur le quai, les mécaniciens de service avaient du mal à cacher leur curiosité et leur impatience. Richard se sentait comme eux, mais il prenait une expression imperturbable. Le chef ne devait pas manifester ses émotions. C'était là un précepte fondamental. Et Richards devait plus que jamais se souvenir des précieux enseignements qu'il avait reçus dans sa jeunesse. Le moment était venu de s'en servir, de les mettre en application. Les principes étaient justement ce qui restait lorsqu'on manquait de visibilité, lorsque l'intuition vous faisait défaut, lorsque le jugement était embrouillé et difficile. Les principes étaient une rampe de sécurité qu'on pouvait suivre dans le noir. Tout le monde fut soulagé de voir sortir de l'annexe le même nombre d'hommes qui y étaient rentrés. Richard sentit même chez les mécaniciens le soulagement que l'enseigne Touré ne fût pas du nombre. L'ombre de la cour martiale et de la potence, au moins, s'éloignait de leur front soucieux. Malkin, Fabre, Wilson et Strauss avaient une allure pitoyable, des uniformes déchirés, des égratignures sanguinolentes, de la boue jusque dans les cheveux, des traits tirés. Le lieutenant Malkin s'apprêta à parler, mais Richards le coupa. « Bienvenue à bord, » dit-il posément. « Une équipe médicale a été préparée pour un check-up rapide. « Lieutenant Malkin, Major Strauss, je vous attends en uniforme réglementaire en salle de réunion dans 30 minutes. Fabre et Wilson, vous serez également entendus pour un premier débriefing avec votre officier de référence. » Cet accueil froid et protocolaire fit jaser les mécaniciens, ce qui était le but visé par Richards. Rien dans les mots ou l'attitude du capitaine ne devait signifier l'urgence, la panique, la désorganisation. La stratégie militaire avait peut-être été oubliée, mais la discipline militaire, elle, avait été conservée intacte et il fallait maintenant se reposer sur elle. Michael rendit grâce à la sagesse du capitaine Richards. Ils avaient en effet grand besoin de manger, de boire, d'être pansés et massés, d'être lavés et vêtus dignement. Ces 30 minutes n'étaient pas perdues. Michael désirait jouir de toutes ses facultés mentales et physiques pour défendre son point de vue. Le lieutenant Malkin, qui fulminait déjà avec une remarquable constance depuis leur échec au village, manifestait sa colère par tous les pores de sa peau. Sa mauvaise humeur éclata contre un infirmier. « Vous me faites mal, imbécile, et cette plaie n'a pas besoin d'être pansée, fichez-moi la paix !» Au bout de 30 minutes, les deux hommes, qui ne s'étaient pas adressés une seule parole ni un seul regard direct depuis plusieurs heures, furent reçus par le capitaine dans la salle de réunion. Richards cessa de faire les 100 pas, et les invita à s'asseoir. Lieutenant, faites-moi un bref exposé factuel de ce qui s'est passé. » Le lieutenant Malkin, malgré sa rage, joua le jeu. « Mon capitaine, nous nous sommes rendus en véhicule de transport terrestre jusqu'au village autochtone où nous avions repéré l'enseigne Touré. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, tous les autochtones étaient rassemblés, nous les avons sommés de nous livrer Touré, que nous avons identifié parmi le groupe. Pour toute réponse, ils se sont collectivement avancés vers nous de manière menaçante. Nous avons ouvert le feu, puis nous avons été submergés par leur nombre. Ils se sont rués sur nous et sur le véhicule, qu'ils ont mis en pièces. Nous avons été désarmés et chassés. Nous avons ensuite mis plusieurs heures à traverser la forêt jusqu'à l'annexe. Major Strauss, avez-vous quelque chose à ajouter ? Le lieutenant Malkin m'a ordonné de rester dans le véhicule, car il souhaitait que j'évite dorénavant tout contact avec la population autochtone. Je n'ai pas assisté au combat. J'ai entendu distinctement deux coups de feu, puis les autochtones se sont rués sur le véhicule, m'ont traîné dehors et nous ont en effet chassés de leur village. Les coups de feu ont fait deux victimes, je dirais un blessé et un mort. Ce qui m'a frappé était la coordination de leur attaque. Ils se déplaçaient positivement comme un seul homme. Lieutenant Malkin, comment expliquez-vous votre échec alors que vous disposiez d'armes à feu et qu'ils n'en disposaient pas ? Le nombre, mon capitaine. Nous étions dans un rapport de 1 contre 50. Mais toute l'histoire humaine démontre qu'un seul homme armé peut souvent prendre le contrôle d'une foule, surtout si celle-ci est pacifique et civile. Regardez les attentats du début du XXIe siècle. Un homme seul, armé d'une simple lame de cutter, a réussi à circonvenir tous les passagers d'un avion. L'infériorité numérique n'est que l'un des facteurs de l'explication. Major Strauss, avez-vous une idée ? Oui. Comme je l'ai dit, les autochtones n'agissaient pas de manière isolée et ne cédaient pas à des sentiments individuels. Ils étaient profondément coordonnés, comme des soldats exécutant parfaitement un ordre collectif, au mépris de leur intérêt individuel. Comment expliquez-vous cela ? Disposerait-il d'une formation militaire plus poussée que nous ne l'avions présumé ? C'est possible, dit Strauss. Excusez-moi, mon capitaine, dit Malkin, mais le major Strauss se livre comme d'habitude à des spéculations littéraires. Ce qui s'est passé est beaucoup plus simple et beaucoup moins mystérieux que ce qu'il prétend. Nous avons été pris de court, pris par surprise, parce que nous ne nous attendions pas à une résistance. Nous avons sous-estimé la détermination de l'adversaire et nous avons manqué d'initiative. Fabre et Wilson n'ont pas été à la hauteur. Fabre n'a même pas dégainé son arme et Wilson n'a pas fait beaucoup mieux. J'assume l'entière responsabilité de ce fiasco. Le capitaine Richards recommença à faire les 100 pas. Ce que disait le lieutenant résonnait avec ses propres pensées. Ils avaient sous-estimé l'adversaire et n'avaient aucune expérience de la guerre réelle, mais l'analyse de Strauss lui paraissait importante. « Pourquoi avez-vous demandé au major Strauss de demeurer dans le véhicule ?»« Le major n'est pas une unité combattante. »« Certes, mais vous auriez pu utiliser ses compétences diplomatiques. » Après la lecture du message des autochtones, il m'a semblé que le major Strauss était en quelque sorte en intelligence avec l'ennemi. Vous utilisez des termes forts, qui ont une signification juridique. Vous parlez de trahison, fit observer Richards. Souhaitez-vous maintenir cette accusation ? Le lieutenant Malkin hésita. Non, je n'accuse pas Strauss de trahison. Mais son empathie pour les autochtones, que nous pouvions utiliser lors de la phase diplomatique des négociations, me paraît non seulement inutile, mais nuisible dans une phase de confrontation physique. Je préconise d'ailleurs de le confiner dans ses quartiers pour le reste de cette phase. Avez-vous observé chez le major Strauss un comportement de nature à vous faire croire qu'il souhaitait déserter ou agir à l'encontre des intérêts de l'Union ? Non, mon capitaine. Richard soupira. Ce point étant éclairci, j'aimerais votre point de vue à tous les deux sur le message que nous ont fait parvenir les chefs autochtones. Et je vais commencer par écouter votre analyse, Major. Il s'agissait d'un manquement au protocole. Il était en effet d'usage, comme Richards venait de le faire pour le rapport sur la mission d'interpellation, de donner la parole en premier à l'officier le plus gradé. Michael ne savait pas s'il devait considérer cela comme une lueur d'espoir. C'était en tous les cas une marque d'ouverture de la part de Richards qui montrait ainsi fermement au lieutenant que sa décision n'était pas prise d'avance. Le contenu de ce message m'a beaucoup surpris. Les autochtones ne sont pas stupides, ils possèdent des connaissances solides en histoire terrienne. Ils ne peuvent pas ignorer qu'ils risquent la destruction en refusant nos conditions. ils ne peuvent pas ignorer non plus la puissance de feu d'un vaisseau comme la sonde. Je ne m'explique pas les termes de leur réponse. À moins qu'ils ne se sentent, d'une manière ou d'une autre, en position de force. Le lieutenant Malkin poussa une brève exclamation de protestation que le capitaine Richards ignora. « À quoi pensez-vous ? » « Je ne sais pas, » dit Michael, « mais force est de constater que contre toute attente, ils ont résisté avec succès à notre tentative d'interpellation de l'enseigne Touré. » Même s'ils disposent d'une formation militaire très poussée, leur permettant une parfaite coordination tactique, à quoi cela leur servira-t-il contre un vaisseau placé sur l'orbite de l'organe ? « Je ne sais pas, » avoua Michael, « je me pose cette question depuis plusieurs heures. »« Merci. Votre analyse, lieutenant ?» Ces primitifs agissent de manière fière et irrationnelle. Ils pensent pouvoir rejouer éternellement le combat de David contre Goliath. Ils sont peut-être convaincus de bénéficier d'une aide surnaturelle, d'un dieu ou d'une autre puissance qu'ils révèrent. Je ne vois strictement aucune raison d'accorder le moindre crédit à leur intimidation. Le rapport de l'ingénieur Ido est formel. Ils ne disposent d'aucune technologie offensive suffisante pour nous inquiéter. Leur refus est à leurs risques et périls, et ils vont très bientôt en subir les conséquences. Que préconisez-vous, lieutenant ? Je vais devoir prendre une décision rapide, j'ai besoin d'entendre votre conseil. Que devrais-je décider, selon vous ? Il me paraît nécessaire de prendre le contrôle de l'organe, de manière franche et définitive. Une invasion terrestre aurait été envisageable, mais les ressources tactiques dont disposent les autochtones, selon notre expérience et selon les dires du Major Strauss, rendent cette solution risquée. Nous parviendrions probablement à sécuriser la ville, mais nous perdrions des hommes. Pour ma part, j'opterais pour un grand coup, frappé en plein cœur, sans aucun risque pour nous. Un bombardement massif de leur cité et des villages alentours. Les survivants retiendront la leçon pour les générations à venir. À quelle heure préconisez-vous d'effectuer le bombardement ? La sonde a quitté sa position géostationnaire et s'est remise en orbite, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact. À quelle heure la sonde survolera-t-elle à nouveau la ville ? Dans 7h34, il sera environ 5h. Alors je préconise de préparer le bombardement à ce moment-là. Richards avait un air grave. Il hocha la tête silencieusement, puis se tourna vers Michael. « Major Strauss, partagez-vous cet avis ?»« Non, mon capitaine. »« Le contraire m'eût étonné, » souffla le lieutenant Malkin. « Et c'est pourquoi j'ai besoin d'écouter son avis, » dit fermement Richards. « Laissez-le parler sans l'interrompre, lieutenant. Strauss, je vous écoute. Que devrais-je décider, d'après vous ?»« Tout d'abord, je m'étonne que vous ayez d'emblée écarté la proposition des autochtones, sans même l'examiner. Ils cèdent à l'Union une partie non négligeable de la planète, et cette partie du contrat est certainement négociable. De plus, comme vous l'avez fort bien fait remarquer, ils semblent techniquement incapables d'empêcher qu'une exploitation plus massive ait lieu. » Leur proposition, en somme, laisse libre cours à l'Union pour une récupération d'une grande quantité de matières premières, sur un périmètre qui pourra évidemment s'étendre avec le temps. L'organe est une planète B. Certes, intervint Richards, mais si nous prenons le contrôle de la ville, nous pourrons également exploiter l'organe. Me conseillez-vous vraiment d'accepter leur proposition ? Quelle décision, selon vous, devrais-je prendre ? Michael sentit tout le danger d'une réponse claire. Je vous conseille de réfléchir aux avantages d'une coopération. Les savoir-faire sociaux des habitants de l'organe sont très développés, et les acquérir serait peut-être une avancée civilisationnelle plus importante que la récupération des ressources du Covadis, dont nous ne connaissons même pas l'état. « De quel savoir-faire parlez-vous ? » demanda Richards. « Je parle de leur coordination, de leur façon de communiquer presque à distance, de leur intégration des animaux dans leur vie quotidienne. » À quoi cela pourrait-il être utile à l'Union ? Cela est utile à l'humanité, mon capitaine. L'humanité n'est-elle pas au-dessus de l'Union ? Il y eut un silence, puis le major reprit. Cette colonie est un succès inespéré pour le grand essaimage. À vrai dire, le succès le plus éclatant de cette entreprise désespérée jusqu'à preuve du contraire. Avons-nous le droit de trahir ceux qui ont fondé l'Union ? Ceux qui ont envoyé ces vaisseaux essaimés aux quatre coins de l'univers sous prétexte qu'ils répondent de manière arrogante à un ultimatum que nous leur adressons ? Ces hommes et ces femmes partagent notre ADN. La civilisation qu'ils ont créée est singulière. Leur refus de bénéficier de notre technologie n'en est-il pas la preuve ? Sur Terre, ce mépris de la technologie n'aurait-il pas sauvé la planète lorsqu'il en était encore temps ? N'est-il pas bon qu'il y ait quelque part cette enclave humaine sur une planète libre pour préserver notre plus précieux capital, notre espèce ? L'espèce humaine n'est plus en danger, Major Strauss. Aujourd'hui, non. Mais demain, vous savez comme moi combien les organismes vivants sont fragiles dans ces déserts glacés que nous traversons. Une épidémie, un cataclysme, une baisse de la fertilité, tout peut arriver. Nous pourrions fort bien repeupler l'organe avec des habitants de l'Union. Mais alors, avec les siècles, les habitants de l'Union se multiplieront et épuiseront l'organe, et tout sera à recommencer. Cette civilisation-là est différente, vous le voyez bien. Elle ne cherche pas à exploiter la planète. Elle évitera le paradoxe de Fermi. Vous m'avez demandé ce que je vous conseille de faire ? Eh bien voilà. Si vous ne pouvez pas accepter les conditions qu'il vous propose, ce que je comprends, je vous conseille de donner l'ordre d'arrêter la sonde en vol géostationnaire aux antipodes de leur foyer de peuplement et d'installer, à terre, une colonie d'exploitation minière, hydraulique et aérienne. Je vous conseille de négocier avec l'Union un périmètre et une période d'exploitation qui soit compatible avec la préservation de la biosphère, et je vous conseille enfin de cesser tout contact avec les autochtones. « Et les laisser s'en tirer comme ça ?» demanda Malkin, interloqué. « Oui, exactement. Les laisser s'en tirer comme ça, » répondit Michael. « Nous ne sommes pas là pour venger notre honneur ou pour prouver quoi que ce soit. »« Certes, » dit Richards après un moment de silence. « Messieurs, je vous remercie de vos avis. Je vais me retirer et réfléchir. Lieutenant, retrouvez-moi au pont dans 2 heures. Major, vous pouvez rejoindre vos quartiers. » « Dois-je comprendre que j'y suis confiné ?» demanda Michael. « Non, » dit le capitaine. « Je vous suggère à tous les deux d'essayer de dormir. Vous avez mauvaise mine, et quoi que je décide, nous aurons fort à faire demain. » Philippe Reda activait machinalement le transmetteur toutes les 10 minutes depuis 8 heures. Il n'était pas sorti de sa cabine depuis la visite du capitaine Egon Richards, qui lui avait appris que tous les hommes de la mission étaient manquants. Michael avait-il déserté ? Était-il en danger ? Avait-il décidé de couper tout contact avec la sonde ? Ou subissait-il une avarie involontaire de son matériel ? Ces questions tournaient en boucle dans son esprit fiévreux, et une partie de lui-même avait conscience du caractère absurde de cette obsession. N'était-il pas la plupart du temps hanté par des images de sa propre mort ? Comment le destin de Michael Strauss avait-il pu devenir si vital ? Par moments, Reda rêvait que Michael avait suivi son conseil, qu'il avait tout laissé derrière lui. Peut-être avait-il même abandonné son transmetteur quelque part, au milieu de la forêt. Il imaginait Michael heureux, libéré de l'attraction maléfique de la sonde. Il l'imaginait vivant, dans la plénitude de son humanité. Mais cette rêverie cédait invariablement le pas à une autre, plus morbide. Michael ramenait de force dans la sonde, les mains liées, le regard vide. Cette dernière image le rendait particulièrement triste. Lorsqu'il se concentrait suffisamment pour en imaginer tous les détails, il avait presque envie de pleurer. Soudain, le transmetteur émit quelque chose et Reda sursauta. « Michael Strauss ?» Reda fronça les sourcils, regardant le transmetteur sans le toucher comme s'il s'agissait d'une machine en train de surchauffer. Pourquoi Michael écrirait-il ceci ? « Non. Qui êtes-vous ? » La personne, à l'autre bout de la communication, écrivait très lentement. « Je m'appelle Foudre et je cherche à joindre Michael Strauss. » Reda réfléchit un moment. « Pour autant que j'en sache, Michael Strauss est toujours sur l'organe. » « Non. Le petit vaisseau a décollé il y a déjà longtemps. Il a certainement regagné la sonde. Qui êtes-vous ? » « Un ami de Michael Strauss. Mon nom est Philippe Reda. » « Bonjour, Philippe Reda. Michael m'a parlé du lien spécial qu'il a avec vous. » Ces mots touchèrent Reda. « Pouvez-vous essayer de le chercher, Philippe Reda ? J'ai absolument besoin de lui parler, c'est urgent. » Reda haussa les épaules. Après tout, il n'était pas sorti de sa cabine, et il se pouvait fort bien que l'annexe soit revenue. Il n'y avait aucune raison pour que quiconque le prévienne. Egon Richards était venu à la pêche aux informations et non pour partager les siennes. Philippe Reda était non seulement un simple mécanicien, mais il était de surcroît marginalisé par sa dépression. Il songea aux cours de sociologie des organisations qu'il avait suivies plus jeune. On disait que certains membres d'un groupe ou d'un équipage étaient reliés à tous les autres, et que certains autres, en bout de chaîne, n'étaient reliés qu'à un ou deux autres membres. C'était son cas. Les individus périphériques, comme lui, n'étaient-ils pas toujours les derniers informés? Je ne connais pas le numéro de sa cabine. Le temps de latence fut encore plus long que d'habitude. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire, mais pourriez-vous essayer de trouver les informations nécessaires pour le contacter? Reda soupira. Il n'avait pas envie de sortir de sa cabine. À vrai dire, il se sentait même franchement oppressé à l'idée de rencontrer des membres d'équipage et de devoir leur parler. Je ne sais pas. Philippe Reda, c'est une question de vie ou de mort. Si vous tenez un tant soit peu au major Michael Strauss, vous devez faire un effort. Reda soupira à nouveau. Que dois-je lui dire? Donnez-lui le transmetteur pour que je puisse lui parler. Pris par une impulsion subite, Reda coupa la communication. Personne ne pouvait l'obliger à rentrer dans la vie, à parler, à entreprendre des actions, à chercher. Il avait fini avec tout cela, il s'en était délivré, et il n'y avait pas de retour en arrière. Il était là, sur le seuil, et tout était épuré et vide autour de lui. Il n'y avait plus que son corps vivant, et son âme nue, et sa mort plus nue encore. Les autres, il les avait laissés derrière lui, loin, très loin derrière lui. Les autres, avec leurs demandes incessantes, leurs jugements, leurs préoccupations diverses, leurs sentiments indécents. Cela lui apparaissait, du point où il était parvenu, comme une fourmilière grouillante et répugnante. Pour rien au monde, il n'aurait voulu franchir en sens inverse le chemin qui le ramènerait vers les hommes. La mort, réduite à une ligne presque géométrique de lumière blanche, lui paraissait plus désirable. Et pourtant, il avait laissé Michael Strauss pénétrer dans ce sanctuaire. Il avait pris plaisir à échanger avec cette âme sincère, un peu moins nue que la sienne, mais simple, calme et dépourvue de futilité. C'était une dernière conversation avant l'appareillage, il le savait. Il désirait d'ailleurs le départ de Michael, sa fuite, sa plongée dans l'inconnu de l'organe, son absence. C'était comme un double de lui-même qu'il regardait dans un miroir avant de sauter dans le vide. Michael devait sauter dans le vide lui aussi, mais dans un vide plein d'espoir et de vie. Cette image ne faisait que faciliter son propre saut. Bien décidé à ne pas sortir de sa retraite silencieuse, il était en train de ranger le transmetteur au fond d'un tiroir lorsqu'on frappa à la porte de sa cabine. Il s'approcha de la porte et hésita à ouvrir. « Philippe, c'est moi !» fit la voix de Michael Strauss. Reda éclata de rire en ouvrant la porte. « On peut dire que vous avez de la chance, » dit Reda. « Il y a justement quelqu'un qui cherche à vous joindre. » Il reprit le transmetteur du tiroir et Michael l'activa fébrilement. Reda le regarda faire. Michael était dans la vie, lui, dans la fourmilière. Il ressentait des émotions, des scrupules, des peurs. Tandis qu'il lisait et écrivait les messages, Reda pouvait lire les sentiments sur son visage. Cela lui déplut. C'était un peu comme de voir un homme nu alors qu'on n'en a pas envie. Les sentiments avaient quelque chose d'agressif. « Je ne comprends pas, » murmura Michael. « Quoi ?»« Elle m'a dit de trouver un moyen de rejoindre la surface de l'organe. Elle m'a dit qu'il le fallait absolument. »« Et qu'avez-vous répondu ?»« Que la surface de l'organe risquait d'être balayée à l'aube et qu'elle devait fuir. »« Quel est son dernier message ?» Michael se pencha pour le lire à haute voix. « Je n'ai plus le temps, ne reste pas à bord de la sonde. » Et puis ? C'est tout, la communication a été coupée. Le lieutenant Malkin, 2 heures exactement après la fin du débriefing, entra sur le pont. Plusieurs officiers se trouvaient là, visiblement un peu tendus. Pendant le quart d'heure qui suivit, tout le monde resta figé dans l'attente, car le capitaine Egon Richards, d'ordinaire si ponctuel, ne se montrait pas. Malkin ne savait pas à quoi s'attendre et redoutait une erreur de jugement de la part de Richards. Quand enfin le capitaine pénétra sur le pont, les officiers présents se levèrent et saluèrent. « Officier de la sonde, » dit-il solennellement quand il fut arrivé à son poste. « Pour la première fois depuis que j'ai l'honneur de commander ce vaisseau, Je vous demande d'enclencher la procédure 43 bis du code spatial. » Ces paroles tombèrent dans un silence de mort. Malkin exultait et éprouvait même une petite pointe d'admiration pour Richards. La procédure 43 bis était celle d'un bombardement orbital d'une zone habitée de taille restreinte. Elle différait de la procédure 43 parce qu'elle avait pour objectif premier la destruction des infrastructures, tandis que la procédure 43 avait, elle, pour priorité la destruction des unités de peuplement. « Qu'attendez-vous, bon Dieu ? » cria-t-il pour briser le silence. « Tout le monde à son poste. L'Union compte sur chacun d'entre vous. »